Deutsche Welle. Le club de l'auditeur.
Pendant plusieurs générations, les peuples africains subsahariens, longtemps considérés comme des illettrés, ont été coupés de leur propre histoire écrite. Voilà ce qui a motivé André Diarra, réalisateur malien, à tourner un documentaire sur des milliers de manuscrits cachés durant l'époque coloniale à Tombouctou. Il est aujourd'hui l'invité du club et nous en dira plus dans un instant. Bonjour et bienvenue à tous pour cette édition du club de l'auditeur avec Mireille Drone au micro. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, eh bien c'est notre rendez-vous comme tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel. Un grand merci d'abord à tous ceux qui nous sont toujours fidèles, soit en écoutant nos programmes à la radio, parfois de longue date d'ailleurs, soit en consultant notre site sur Internet, sur Facebook, Twitter ou WhatsApp, autant de supports sur lesquels je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre si vous n'y êtes pas encore, pour pouvoir échanger vos commentaires et informations plus vite et plus facilement. Je vous rappellerai nos contacts en fin d'émission. Et un petit coucou donc tout particulièrement à Hugo de Nantes en France, en le remerciant de son rapport d'écoute, Mohamed de El Hosseinia en Égypte, Sam de Lomé au Togo, Étienne de Cotonou au Bénin, Williams d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Mahamadi de Ouagadougou au Burkina Faso, Raphaël de Pala au Tchad et Gloire de Kolwezi en RDC. Du 3 au 12 juillet s'est tenue à Cracovie, en Pologne, la 41e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le comité a examiné l'état de conservation de 99 sites déjà inscrits sur la liste et des 55 sites figurant sur la liste du patrimoine mondial en péril. Il a également statué sur 33 propositions d'inscription. Alors, concernant l'Afrique, sachez qu'est désormais inscrit au patrimoine mondial de l'humanité Asmara, la capitale de l'Érythrée. La ville s'est développée à partir des années 1890 comme un avant-poste militaire pour la puissance coloniale italienne. À partir de 1935, elle a connu un programme de construction de grande échelle appliquant le style rationaliste italien de l'époque aux édifices gouvernementaux, aux bâtiments résidentiels et commerciaux, aux églises, mosquées, synagogues, cinémas, hôtels, etc. Pour Mechthilde Rösler, la directrice de la division du patrimoine et du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, Asmara, c'est une fierté et elle s'est réjouie de voir progresser la perception en Afrique du patrimoine moderne, longtemps vu comme une chose coloniale. Et puis toujours à propos de patrimoine, notez que le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a retiré de la liste des sites en péril le parc national de la Comoé en Côte d'Ivoire, en raison de l'amélioration de l'état de conservation de la faune et de son habitat. Il a salué les efforts déployé par la Côte d'Ivoire pour lutter contre le braconnage des animaux sauvages. Du coup, des espèces emblématiques du parc national de la Comoé, que l'on pensait disparues, comme l'éléphant et le chimpanzé, se régénèrent et les habitats connaissent par ailleurs un très bon niveau de conservation. Le parc de la Comoé, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, est l'une des zones protégées les plus vastes de l'Afrique de l'Ouest. Cap sur le Mali maintenant pour parler, comme je vous le disais, de l'histoire écrite de l'Afrique. André Diarra est un cinéaste malien. Il a déjà reçu plusieurs distinctions internationales pour son premier long métrage documentaire Hamou Beya, pêcheur de sable. Et maintenant, il travaille sur des manuscrits qui nous font voyager dans l'histoire et les valeurs de l'Afrique écrites par les Africains depuis le XIe siècle. Je l'ai rencontré au mois de mai dernier lors du festival du film de Cannes. André Diarra, bonjour.
Bonjour.
Alors, André Diarra, vous n'êtes pas votre premier film, vous êtes déjà un cinéaste averti, on va dire. Vous avez déjà présenté un film documentaire intitulé Pêcheur de sable, Hamou Beya. Vous étiez même à Cologne, en Allemagne, pour ce film-là. Quelle est pour vous maintenant l'importance d'être à Cannes? C'est la première fois que vous êtes à Cannes.
Oui, effectivement, c'est ma toute première fois à Cannes. Et je suis là avec un nouveau projet documentaire qui, pour moi, nécessite une autre dimension cinématographique. Et ce projet ayant bénéficié de la session Cinéma du Monde est une opportunité vraiment qui permet au projet vraiment de s'ouvrir vers le monde extérieur, d'aller dans une autre dimension de travail cinématographique, mais aussi de production. Et c'est toute une joie d'être là à Cannes et de vivre ces moments de chaleur, ces moments de travail et aussi ces moments de joie.
Vous pensez que c'est un contexte particulier, Cannes ? Parce qu'entre-temps, il y a aussi beaucoup d'autres festivals, mais vous pensez que c'est quand même quelque chose de spécial ?
Oui, en toute chose, il y a le sommet, il y a le milieu, il y a la base. Voilà, donc je peux dire, Cannes, comme tout le monde le sait, c'est l'un des festivals au monde où, en tant que cinéaste, on rêve d'être. Et être ici à Cannes, c'est vraiment une grande joie. Mais en même temps, ce n'est pas seulement le côté folklore du festival, c'est aussi de se frotter à ceux qui ont plus d'expérience que nous, qui ont plus d'expertise que nous, et apprendre à leur côté. Et je pense que les cinémas du monde, aujourd'hui, nous ont permis de rencontrer notamment des responsables de festivals, des responsables de commissions de financement, des cinéastes avertis. Vous voyez, par preuve, nous, le parrain de cette édition, c'est Brian Mendoza. Donc, c'est vraiment une force et une joie pour nous de pouvoir vraiment discuter avec lui sur nos projets, échanger sur nos projets. Et cette expérience qui nous vient d'ailleurs ne fait qu'apporter en plus, c'est une valeur ajoutée qui nous permet d'aller dans une autre dimension. Parce que si on est dans ce travail artistique, c'est aussi grandir comme but. Donc grandir, c'est vraiment être enseigné. Et voilà ce que le Festival de Cannes nous offre.
Alors, vous travaillez donc sur ce nouveau projet qui s'appelle Renaissance. Quelle est l'idée, le thème finalement donc de ce sujet ?
Ben, au fait, Renaissance, c'est en même temps, il faut dire, un sujet qui parle des manuscrits du Mali et aussi une autre vision de la société africaine, en particulier celle du Mali, qui longtemps a été jugée comme une société orale, qui a culture orale. Et il se trouve que ces manuscrits qui restent encore gardés dans certaines familles, dans certaines bibliothèques, sont les traces écrites de vraiment la société africaine. Donc notre société n'est pas que orale, même si elle a été à un moment donné, mais avant bien d'être orale, elle a été une société qui a bâti un savoir, des connaissances, et toutes ces connaissances résident dans ces manuscrits qui aujourd'hui nécessitent une accessibilité au public. Donc le film, il parle dans ce sens, il parle à la rencontre des manuscrits à travers les familles qui les détiennent.
C'est-à-dire, c'est un film documentaire ?
Oui, c'est un film documentaire, c'est d'ailleurs mon deuxième. Et justement, je suis là à Cannes pour lui donner toutes les forces, toutes les chances et toute la beauté de pouvoir être un film assez important, nécessaire pour la génération à laquelle j'appartiens, mais aussi un film de mémoire pour les générations futures, parce que c'est en quelque sorte une mission que moi je me donne et je me dis, tout cinéaste aujourd'hui africain, c'est qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on veut dire à notre société. Et voilà ces valeurs qu'on doit transmettre à travers la force de la caméra.
Alors ce sont des manuscrits qui sont à Tombouctou, dans des familles très précisément dans la région de Tombouctou.
Il faut dire que oui, Tombouctou, depuis le XIIe siècle, a vraiment abrité tout un savoir-faire.
Des scientifiques, voilà. Ainsi de suite.
Ça a été la première université dans cette région de l'Afrique qui n'a pas traité que de la question de l'islam, mais en même temps, c'était des savoirs scientifiques et littéraires. Donc on a des découvertes, des recherches qui ont été faites dans les domaines de la mathématique, de la physique, de la médecine, mais aussi dans la grammaire et la poésie. Donc il ne faudrait pas oublier que toute cette trace de cette civilisation est en fait un héritage qui nous est légué.
Et patrimoine.
C'est un patrimoine, d'abord national et ensuite universel, parce que la connaissance ne se limite pas à une zone géographique, la connaissance elle est universelle. Et en dehors de tout ça, c'est aussi des chroniques familiales qui retracent en fait toutes les valeurs et l'importance qu'a le tissu social aujourd'hui au Mali. Donc pour moi, c'est vraiment une nécessité d'aller vers ces manuscrits, de découvrir leur contenu. Et je veux le faire par la force que le cinéma m'offre.
Mais comment expliquer que ces manuscrits ont été, comme vous disiez, ignorés pendant longtemps ou cachés ?
Oui, mais effectivement, les familles détentrices, vous savez, lors de la pénétration coloniale, les familles ont été averties par la déportation des premières villes qui ont été prises par les colons. Et du coup, elles ont dû cacher leurs manuscrits parce qu'elles savaient déjà ce qu'elles contenaient et les cacher de cette situation. Et je pense que ça a participé à véhiculer l'opinion comme quoi on n'a pas de traces écrites, parce que je pense que quand les colons sont venus, ils n'ont vraiment rien trouvé sur place dans certaines localités. Qualité qui montrait que les Africains à cette époque étaient à un haut niveau intellectuel. Donc du coup, les familles les ont gardés secrètement chez eux et ces manuscrits ont traversé des siècles jusqu'à aujourd'hui, mais c'est des manuscrits généralement couchés sur du papier et certains n'ont pas pu passer le temps. Aujourd'hui sont très abîmés et donc du coup il y a la nécessité vraiment de valoriser ce patrimoine pour que les gens, les familles qui les détiennent et l'opinion publique puissent prendre conscience qu'aujourd'hui c'est une urgence de sauvegarder ces manuscrits, c'est une urgence d'aller vers ces manuscrits pour lutter contre l'ignorance. Voilà.
Mais on a beaucoup parlé des manuscrits de Tombouctou au moment de l'invasion islamiste du nord du Mali. Et d'ailleurs, beaucoup de manuscrits ont été abîmés et pillés à ce moment-là. Bon, finalement, moins qu'on ne le pensait au début. Et puis, ils sont en ce moment à Bamako en train d'être restaurés. Est-ce que les manuscrits dont vous parlez en font partie ?
Mais en fait, il faut dire que les manuscrits... Moi, j'étais vraiment surpris de comprendre que même si on a parlé de Tombouctou, qui a vraiment abrité l'université et autres, il faut comprendre que toute cette région de l'Afrique était prédominée par le commerce. Et ça a permis vraiment une prolifération des manuscrits sur toute l'étendue de cette partie de l'Afrique, majoritairement le Mali. Et du coup, aujourd'hui, les manuscrits, on les retrouve un peu partout au Mali, à Tombouctou, bien qu'à Sikasso, bien qu'à Kaï, bien qu'au sud, vers la Guinée, jusque dans le Fouta Djallon, au Sénégal. Et même aussi en Mauritanie, en allant vers le Niger, une partie du Nigeria. C'était toute cette zone géographique qui constituait l'empire du Mali, l'empire Songhai et autres, qui ont connu au fait l'importance et le transport des manuscrits. Donc aujourd'hui, les manuscrits qui ont été brûlés, c'est vraiment dommage. Ça fait mal parce que c'est des contenus qui sont difficiles, voire impossibles à retrouver, à reproduire. Et c'est une perte non seulement pour la société, pour les Tombouctouciens, pour les Maliens, mais c'est une perte pour le monde entier. Voilà. Et c'est vraiment dommage que cela ait arrivé. Et en même temps, je pense qu'en tout mal, il faut tirer les bonnes leçons. Et c'est vraiment valoriser ce patrimoine pour que les gens puissent prendre conscience que si rien n'est fait aujourd'hui, ce patrimoine va être perdu à jamais. Et cela participe même à soutenir la thèse que l'Afrique est quasiment une société orale. Si aujourd'hui les manuscrits sont valorisés et qu'on comprend que malgré l'enseignement occidental qu'on a, les mathématiques, la physique, la grammaire, la poésie qu'on apprend à l'école, mais aussi on a eu des auteurs africains, des savants africains qui ont fait des découvertes. Et ça serait intéressant que ces contenus, ces connaissances soient jumelés à ce qu'on nous apprend de la culture occidentale. Et je pense que c'est là qu'en fait, en tant qu'Africains, nous allons nous retrouver et vraiment savoir que aussi notre histoire a un point de départ dans l'histoire du monde.
C'est une certaine façon aussi de retrouver sa fierté, parce que certains ont dit aussi qu'il n'y a pas d'histoire en Afrique. C'est une façon de restaurer la fierté des Maliens et des Africains de façon plus générale.
Oui, mais en fait, moi, je trouve très grave de penser que déjà l'Afrique n'a pas d'histoire, de par simplement sa récente implication dans les conflits qui étaient loin d'elle. Elle a vachement participé à ces conflits, a défendu des intérêts qui n'étaient pas la sienne. Et moi, je pense que c'est une ignorance d'avancer ce genre de propos. Et pour moi, on ne peut pas être à un niveau aussi intellectuel et avancer ce genre de propos, parce que toutes les communautés ont, à leur manière, participé à l'histoire du monde.
Bien entendu.
Voilà. Et cette partie de l'Afrique, parce que quand on dit l'Afrique, il ne faut pas penser seulement que c'est le côté noir du pays, c'est l'Afrique, c'est le Maghreb, c'est l'Afrique de l'Est, c'est un peu l'Égypte. Donc on ne peut pas penser que l'Afrique n'a pas participé, sinon on contredit en fait toute la civilisation égyptienne, on contredit toute la civilisation ouest africaine, tous ces empires qui se sont créés, qui ont eu des systèmes de gouvernance, qui sont partis avec toute une politique sociale en établissant des droits humains. On a cette charte de la Mandée qui est une charte de 1236 qui est plus vieille que la charte de Genève. Donc on peut pas dire que l'Afrique n'a pas cette valeur intellectuelle. Et je pense que en valorisant cette marque écrite, en valorisant ce contenu de ces manuscrits, je pense que ça participe à réécrire l'histoire de l'Afrique. Ça participe à revoir, au fait, notre opinion individuellement dans nos têtes. Mais en même temps, ça donne une place à l'Afrique qui doit lui revenir, en fait, dans la sphère mondiale.
Mais vous parliez de la structure de la société, par exemple au Mali. Est-ce que la société n'est pas quand même menacée un petit peu d'éclatement en ce moment avec ces nouveaux développements, justement, de ces, on va dire, djihadistes, parce que ça n'a rien à voir finalement avec l'islam, mais c'est ces groupes, finalement, qui risquent pas de faire quand même éclater les structures, l'homogénéité du Mali?
Fort malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. De plus en plus, les communautés commencent vraiment à s'affronter et je trouve ça assez dommage. Moi, l'une des choses que j'aimais au Mali, c'est vraiment, avant cette crise, cette convivialité qui a existé et qui s'est préservée durant des siècles jusqu'à aujourd'hui, nous, qui notre temps. Et voilà, c'est des familles, c'est des communautés qui ont lié des pactes. Et voir que tout cela est réduit à une fine opinion, volonté, motivation, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire. Et notamment, ce projet participe à cette réflexion. C'est comment aller vers notre passé pour comprendre d'abord qui nous sommes, enlever dans nos têtes la génération à laquelle j'appartiens, ce complexe de l'autre. Parce que tant qu'on ne se connaît pas, tant qu'on n'apprend pas à savoir qui nous sommes, on ne peut pas se mettre en valeur vis-à-vis de l'autre. Parce qu'on aura toujours un repère par rapport à celui qui est en face. Pourtant, nos repères sont là, ils sont dans ces familles. On doit aller vers ces repères pour comprendre qu'est-ce qu'on nous a légué, quel est notre héritage dans ces contenus de manuscrits, pour pouvoir vraiment réfléchir quelle est la société qu'on veut se bâtir. Voilà. Pour moi, c'est l'essence même de notre projection dans le futur nécessite vraiment un retour vers l'arrière.
Mais est-ce que vous avez l'impression, justement, que les autorités en place se donnent les moyens de restaurer cet état pour bâtir cette société de demain malienne?
Oui, c'est quasiment politique. Moi, en tant que Malien lambda, je pense qu'il y a des actions qui sont menées, même si elles sont insuffisantes. Mais il y a déjà des pas qui sont... Par exemple, aujourd'hui, on a l'Institut Ahmed Baba, on a la bibliothèque Savama, qui est une ONG. Et tout cela participe vraiment à l'essor et à comment préserver en fait, ces manuscrits pour qu'elles ne puissent pas se perdre. Et voilà, et je pense que c'est parti d'un constat amer. Des premiers manuscrits qui ont été sortis et qui étaient assez abîmés. Mais il y a eu des moyens colossaux qu'il a fallu débloquer pour pouvoir venir à bout de ce mal. Et je pense qu'aujourd'hui, nos États, il ne s'agit pas seulement de l'État malien. C'est vrai que le Mali aujourd'hui abrite vraiment le plus grand nombre de manuscrits, mais ces manuscrits, comme je le disais, on les retrouve un peu partout, du Nigeria en Mauritanie, de l'Algérie en Guinée, une partie de la Côte d'Ivoire, une partie du Burkina.
Voilà, en quelle langue sont-ils écrits?
Il faut dire que ces manuscrits sont écrits en langue arabe, hein, l'écriture arabe, qui parfois, en fonction des zones, s'est adaptée au dialecte local. Donc tout ça, ça a été créé, ça a été pensé sur place. Donc c'est aussi une grande richesse de savoir comment est-ce que, à partir de l'autre, on arrive à créer quelque chose qui nous appartient. Ouais,
donc, ça veut dire aussi qu'il faut avoir des spécialistes qui soient en mesure de lire cette ancienne langue, en quelque sorte, parce que la langue a évolué, bien entendu.
Oui, justement. Et je pense que c'est l'importance de ces spécialistes qui, je pense, ne sont pas assez. Donc il faudrait mettre des moyens pour que ceux qui sont déjà là puissent à leur tour léguer la connaissance, l'expertise qu'ils ont à des générations et vraiment vulgariser au fait cette connaissance de pouvoir vraiment décoder le contenu des manuscrits qui sont là parce qu'on ne peut pas simplement se baser sur une minorité de personnes pour pouvoir ou penser vraiment dire qu'on va comprendre le contenu de ces manuscrits qui aujourd'hui sont estimés à peu près à 900 000. Donc en valorisant aussi ce travail, ça fait de la main-d'œuvre et je pense que en dehors du contexte artistique, culturel et autres, ça participe aussi à la question économique. Voilà, c'est aujourd'hui aussi comment est-ce que on crée du travail autour de ces manuscrits. Voilà, et ça permet aux populations de s'approprier la question de l'importance de la valorisation de ce patrimoine.
Bah écoutez, je vous remercie et puis surtout, c'est je vous souhaite beaucoup de succès.
Merci.
Et à très bientôt, alors, le documentaire.
Oui, à très bientôt. On est là-dessus, on travaille. C'est intéressant qu'on ait déjà de bons contacts ici et je pense que les choses vont se tisser. Et ma productrice, Awa Traoré, prendra tout le soin de vraiment se mettre d'accord avec les bons partenaires pour que nous puissions arriver à bout. Et j'espère bien être encore avec ce film au festival de films à Cologne.
Très bien, ben on vous attend. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
C'était André Diarra, réalisateur malien. Sachez aussi que lors du premier G7 de la culture à Florence en mars dernier en Italie, il a été souligné que dans sa lutte contre la destruction ou le trafic de biens culturels, la communauté internationale doit s'adapter à des menaces ou des conflits d'un nouveau genre dont les acteurs échappent aux conventions internationales. Depuis 1954, la convention de La Haye protège les biens culturels en cas de conflit armé. L'arsenal s'est étoffé en 1972 avec l'association des notions de patrimoine naturel et culturel et en 2003 avec la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Mais ces conventions sont applicables à des États et non à des organisations criminelles ou terroristes, comme par exemple pour la destruction des Bouddhas géants de Bamiyan par les talibans en Afghanistan. Même chose lors de crises plus récentes en Irak, en Syrie, au Yémen ou en Libye, où des groupes terroristes utilisent les destructions de biens culturels à des fins de propagande. Leurs prises de guerre viennent aussi alimenter un juteux trafic qui permettrait par exemple à l'organisation État islamique d'empocher entre 8 et 10 millions de dollars par an. Alors, la réponse à ces destructions est venue à partir du conflit irakien avec l'envoi de spécialistes, en particulier italiens, chargés de la défense du patrimoine. Après les destructions des temples de Palmyre par l'État islamique, l'Italie a souhaité faire un pas de plus dans la défense du patrimoine mondial en créant l'année dernière les casques bleus de la culture en partenariat avec l'UNESCO. Une première unité spécialisée de 60 personnes est désormais formée pour intervenir partout dans le monde à la demande de l'UNESCO ou des pays concernés, victimes de conflits armés ou de catastrophes naturelles. Je vous rappelle aussi qu'un djihadiste malien avait été condamné en septembre dernier à 9 ans de prison par la Cour pénale internationale de La Haye pour la destruction de mausolées protégées à Tombouctou. Voilà, je vous invite à réagir à ce club ou sur tout autre sujet qui vous tiendrait à cœur. N'hésitez pas à m'envoyer par exemple un courrier électronique. Mon adresse c'est mireille.drone@dw.com. Et vous pouvez laisser aussi vos messages écrits ou parlés via WhatsApp. Pour vous inscrire, tapez tout simplement dw.com/WhatsApp. Et vous serez guidé pour entrer en contact avec nous. Et en plus, vous recevrez nos informations gratuitement. Je vous invite aussi à consulter notre site internet. Pour cela, vous tapez dw.com/français-sans-cédille. Vous y retrouverez les émissions du Club de l'Auditeur et tous nos programmes à télécharger dans la rubrique médiathèque en haut de la page d'accueil, ainsi que les liens vers nos pages Facebook et Twitter. J'espère donc vous lire très bientôt. En attendant, bonne continuation à tous et bon week-end. Au revoir.